Psaume chapitre 4, verset 7. Alors que je réfléchissais sur le sujet que je voulais vous apporter ce matin, vraiment il y a cette pensée qui est demeurée dans mon cœur, cette pensée que j'ai commencé à partager la semaine dernière, que nous sommes la lumière du monde, mais je voudrais le voir d'un aspect totalement différent. Et je me suis dit, mais pourquoi reprendre encore cette pensée? Pourquoi reprendre encore ce qu'on a partagé la semaine dernière? Est-ce que ça ne veut pas trop faire de forcing? Est-ce que c'est pas trop insister que de repartir sur le même sujet? Et puis, il y a ce verset qui est venu sur mon cœur dans le psaume 4. Au verset 7, il est dit ceci. « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ?» Et quand on lit ce passage, on entend un petit peu les gens autour de nous répéter cette parole. « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ?» « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Amen. Si vous voulez voir le bonheur, nous disperser, ne cherchez pas ici-bas dans ce monde, parce que tout ce que nous allons pouvoir trouver ici-bas, ce sont des joies qui passent tellement vite. Si vous voulez trouver le vrai bonheur, celui qui dure, et celui qui est continuel, et celui qui dure jusque dans la vie éternelle, laissez le Seigneur vous éclairer. Et laissez le Seigneur vous permettre de devenir la lumière. Je me suis rendu compte qu'on pouvait en rester simplement à entendre cette vérité que Jésus a dite, vous êtes la lumière du monde, et puis qu'on se mette à réfléchir à tout ce qu'il ne faut pas faire ou tout ce qu'il faut faire, et on tombe sous un joug pesant d'ordonnances. Ah, il faut surtout pas, si je suis chrétien, il faut pas que je fasse ceci, il faut pas que je fasse cela, il faut plus que je mente, il faut plus que je vole, il faut plus... Et on commence à se mettre sur nos épaules un joug pesant. Est-ce que c'est vrai que cela, il faut le faire? On est d'accord? Mais si on se contente de la vie chrétienne comme une série d'ordonnances, des commandements à obéir ou ne pas obéir, alors, laissez-moi vous dire qu'on va vite se lasser. Et je crois que plus je visite des églises, plus je me rends compte que beaucoup de chrétiens se laissent piéger par cet aspect de la vie chrétienne, où on croit qu'il suffit de connaître ce qui est bon, ce qui est pas bon, et puis de s'efforcer de faire ces choses. Mais c'est pas ça que Dieu veut que nous vivions. Vous savez ce que Dieu veut que nous vivions? La communion avec lui. Il est la lumière. Et ce verset est là comme une prière qui doit brûler dans notre cœur. S'il y a une prière que nous devons faire et répéter tous les jours, c'est cette prière. Seigneur, fais lever sur nous la lumière de ta face. C'est-à-dire que dans ta présence, qu'il y ait quelque chose de ta nature qui se communique à ma vie afin que je puisse obéir. Parce que sinon, ça va être que lutte et combat contre ma vieille nature, contre les tentations de ce monde, contre les ruses de l'adversaire qui veut nous faire tomber. Et ça va être échec et désespoir et lassitude. Mais si je laisse la lumière du Seigneur faire son travail dans ma vie, alors tout ça va se dissiper. Comment est-ce qu'on fait pour chasser la lumière? L'image, elle est très simple. Comment on fait? Est-ce qu'il faut s'agiter dans tous les sens, faire des grands mouvements, chasser les ténèbres, vous avez compris, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que en bougeant les bras, en sautant de tous les côtés, ça va chasser les ténèbres? Est-ce qu'en parlant fort, je chasse les ténèbres? Est-ce que ça part? Est-ce que en criant? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu l'as dit tout à l'heure. On appuie sur le bouton. On laisse la lumière venir et les ténèbres sont chassées. Souvent, on combat contre nous-mêmes parce qu'il y a des ténèbres qui sont là encore dans notre vie. On aime le Seigneur, on aime sa parole, on aime tous ses commandements, mais on se rend compte qu'il y a une lutte dans notre corps parce que c'est trop difficile. Mais on n'a qu'à allumer la lumière. On n'a qu'à laisser la lumière du Seigneur venir en nous. Et alors? Alors la lumière chasse les ténèbres. Alors tous ces efforts que l'on a fait en vain, mais le Seigneur, lui, les résout en quelques instants. Parce qu'on choisit de se laisser illuminer par le Seigneur. Et je voudrais bien qu'on comprenne ce matin que le fait de parler la lumière de Christ, c'est pas quelque chose de mystique. On a souvent l'image de quelqu'un comme Paul qui est tombé quand il a vu une grande lumière sur le bord du chemin. Et on pense que tout le monde doit vivre des apparitions, des visions comme ça. Non, c'est quelque chose de spirituel, de très sérieux, quelque chose de très concret aussi. C'est quand on choisit d'ouvrir notre cœur déjà à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comparée dans les psaumes aussi à une lumière. Vous le connaissez tous ce verset. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et déjà, si je me laisse connecter à la parole de Dieu, alors il y a tout un travail qui se fait. Ce matin, je voudrais qu'on étudie tout cela justement, si on a vu que Jésus était la lumière de la vie, la lumière du monde, et qu'il nous appelle nous-mêmes être la lumière. Ce matin, je voudrais qu'on voit que Jésus a vécu des moments dans sa vie où il a connu des temps de lumière, des temps brillants. Et le premier de ces moments, vous savez, c'est à quelle période de sa vie ? Un temps où il y a eu la lumière qui a brillé sur le Seigneur. Est-ce que vous savez quand ça s'est passé ? Il y en a plusieurs, mais le premier. La première fois qu'une lumière a brillé sur le Seigneur. Voilà, tout simplement quand l'étoile a conduit les mages jusqu'à la demeure où était Jésus. Alors dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, je vous lis rapidement ce passage pour vous remémorer. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Amen. La première lumière qui a brillé sur le Seigneur et qui est comme une marque pour notre vie à nous, c'est ce moment où Jésus est né. Quand Jésus est né, il y a une étoile qui a brillé de manière particulière, qui a fait que des savants, des scientifiques de l'époque qui étaient en train de plonger dans leurs recherches, ils ont dû arrêter tout ce qu'ils faisaient et d'entreprendre un voyage jusqu'à Jérusalem, donc des centaines et des centaines de kilomètres à travers les déserts, pour aller voir un roi qui était né. Est-ce que c'était important ce qu'ils ont fait ? Ben, s'ils ont arrêté leur travail, je pense qu'ils étaient assez occupés, comme on est tous occupés, on a tous quelque chose à faire. Mais eux, ils se sont laissés interpeller par ce qu'ils ont vu dans le ciel, parce qu'ils avaient une connaissance en astronomie, ils savaient qu'il y avait un signe particulier. Les spécialistes, les scientifiques d'aujourd'hui s'accordent à penser qu'il y a eu une conjonction d'étoiles, c'est-à-dire deux étoiles qui se sont alignées ensemble et qui ont fait que ça a été plus brillant qu'à l'habitude. Ce qui fait que des scientifiques qui avaient l'habitude de regarder le ciel, ils ont dit « mais il y a quelque chose qui se passe là ». C'est comme si le ciel et les étoiles voulaient dire un message à toute la terre. Attention, aujourd'hui, il y a quelque chose qui commence, une nouvelle ère qui commence. Et en fait, c'était simplement pour marquer la réalité que Jésus venait de naître. Mais cette image qui est là de l'étoile qui se lève sur la vie de Jésus, c'est exactement l'image de la conversion. Parce que quand nous vivons une nouvelle naissance, c'est l'étoile du matin, Jésus est appelé l'étoile du matin, qui se lève dans notre cœur. Et quand nous laissons l'étoile du matin se lever dans notre cœur, alors c'est le début d'une ère nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est le début d'une vie nouvelle. Alors, il n'y a rien qui se passe de manière physique. On n'a pas de transformation, on n'a pas un nez plus long ou plus petit, c'est pas ça. C'est dans notre cœur que ça se passe. Il y a un changement de caractère, il y a un changement d'attitude, il y a justement ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a la haine du mal qui s'installe. On n'a plus ce désir de faire le mal. Alors, quand on fait le mal, on est déçu, on est triste dans notre cœur, parce qu'il y a un changement de cœur. Avant, on faisait le mal, ça ne nous faisait rien. Mais là, notre conscience s'est réveillée, parce que on a choisi de laisser la lumière du Seigneur briller. Cette lumière qui a brillé, c'est ce qu'on peut l'appeler la lumière du roi. Le ciel et les étoiles ont voulu manifester cette joie-là. Et comment est-ce que concrètement la lumière du matin peut briller dans notre cœur aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est des belles images rhétoriques, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous, que la lumière du matin peut briller ? Ben, vous savez, Pierre, il a répondu à cette question. Il a dit ça dans son épître, la deuxième épître, « Vous faites bien de prêter attention à la parole ». Parole en particulier qui a été donnée par les prophètes, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Vous voulez que l'étoile du matin se lève dans votre cœur ? Peut-être c'est déjà le cas pour certains, mais pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. Comment est-ce que l'étoile du matin, la présence de Jésus peut venir illuminer notre cœur de manière concrète ? Faites bien de prêter attention à la parole. C'est-à-dire, exposez-vous à la lumière déjà de la parole de Dieu. C'est merveilleux cette parole, c'est une lumière que Dieu veut nous parler, nous donne son conseil. Mais à un moment donné, tellement on s'est laissé toucher par le message que l'on entend, c'est la lumière commence à poindre dans notre cœur. La guérison vient germer sous ses ailes, nous dit la parole. Il y a toutes sortes de bénédictions qui se passent. Et je me souviens d'avoir vu des gens qui étaient dans l'alcool, des gens qui étaient dans la drogue, qui ont laissé la lumière du Seigneur se lever dans leur cœur et qui, du jour au lendemain, ont abandonné tout cela. Il y a une délivrance de la part de Dieu. Parce que c'est ça que le Seigneur veut faire. Quand il veut faire briller sa lumière dans notre vie, c'est pas pour nous mettre un joug pesant de commandements à obéir, mais c'est pour nous délivrer et nous donner la capacité d'obéir à sa parole. Dès qu'ils ont vu l'étoile, les mages, ils ont cherché Jésus pour l'adorer. Et le but de notre vie, quand on laisse la lumière être cette lumière qui dirige notre vie, ben on n'a qu'une envie, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de passer notre temps à le rechercher, c'est de passer notre temps à trouver sa présence tout simplement, à se retrouver dans la communion fraternelle. Qu'est-ce qu'on peut penser de quelqu'un qui ne désire pas la présence de Dieu ? Par-dessus tout, quelqu'un qui désire Dieu, mais il désire en même temps le confort, il désire les loisirs, il désire l'amour. Est-ce qu'il a le droit de désirer tout ça ? Bien sûr. Mais quand on ne désire pas Dieu par-dessus, alors on risque de se faire piéger par tout le reste. Dieu n'est pas celui qui nous dit d'abandonner tout, mais il nous dit, pour avoir la meilleure efficacité dans tout le reste, si je veux aimer mon épouse ou mes enfants de la meilleure des manières, je dois l'aimer lui en premier. Lui, le mettre en premier dans ma vie, parce que lui, il est une source d'amour infini, et plus je me connecte à lui, plus je laisse sa lumière d'amour briller en moi, plus je vais pouvoir aimer de manière efficace ceux qui sont autour de moi. Mais il faut se laisser exposer à la lumière. Qu'est-ce que ça signifie si on cherche le Seigneur, pas pour l'adorer, mais pour ce qu'il nous donne ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on a le droit de demander ? On a le droit de demander. Mais on ne veut pas chercher Dieu seulement pour ce qu'il nous donne. On veut chercher Dieu parce qu'il est celui qui nous aime, tout simplement. Celui qui mérite l'honneur, celui qui mérite l'adoration. Et les mages ont choisi de chercher le Seigneur et ont choisi, quand ils l'ont vu, de l'adorer. Ils n'avaient qu'un but, c'était d'adorer le nouveau roi qui venait de naître. Et nous avons le devoir d'être ses adorateurs, pas en parole seulement, mais en esprit. Et en vérité, c'est ça, c'est ces adorateurs-là que le Père demande, que le Père recherche. Les mages ont aussi appelé l'enfant Jésus, ils l'ont appelé comment ? Le roi des Juifs. Mais ils l'ont appelé le roi. Et nous devons reconnaître Christ comme le roi. Quand on choisit de laisser la lumière du Seigneur briller dans notre vie, qu'est-ce qui se passe ? Alors automatiquement, on a envie de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est lui le roi. C'est lui le roi des rois d'ailleurs. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Et il doit être le roi dans ma vie. Je veux prier, Seigneur, que ton règne vienne. Comme le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Ça veut dire quoi que ton règne vienne ? Ça veut dire que dans mon cœur déjà, je choisis d'obéir au roi. Jésus est le roi. Je le reconnais comme tel. Et je marche dans l'obéissance. Parce que sinon, on va tomber dans ce que je disais tout à l'heure. Dans cet épuisement, on choisit de connaître la parole de Dieu, on connaît les avertissements, on connaît les commandements, et on essaye par nous-mêmes de faire les choses, et on s'épuise, et on se fatigue. Et combien aujourd'hui de chrétiens sont dans cette situation ? Combien de chrétiens, au lieu d'avoir une relation avec celui qui est la lumière du monde, ils ont plutôt une religion. Une religion qui leur dit « tu fais pas ça et tu fais ça ». Et le résultat, c'est qu'il y a l'épuisement. Et certains chrétiens aujourd'hui encore vivent la dépression. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? C'est pas un jugement que je donne. Parce que la dépression, c'est une maladie comme une autre. Mais combien de personnes et combien de chrétiens passent de plus en plus par la dépression ? Parce que, justement, il y a besoin que la lumière du Seigneur, la dépression ou autre chose d'ailleurs, brille dans notre vie pour nous en libérer. Laissons d'abord la lumière de la parole nous éclairer. Et peut-être prenons du temps, je ne sais pas combien de temps vous prenez à lire la parole jour après jour, peut-être même c'est une fois par semaine. Mais moi je vous lance le défi de prendre du temps à lire la parole. Je parlais à quelqu'un il y a quelque temps qui me disait qu'il a commencé à lire la Bible. Avant il passait du temps, tout le temps, dans son travail lui permettait de tourner ses pensées vers le Seigneur, il priait régulièrement. Mais c'est vrai qu'il m'a dit je négligeais par contre la parole. Et il m'a dit j'ai commencé à prendre du temps. Tous les jours, j'ai commencé à lire un peu plus. Et j'ai commencé à lire la Bible elle-même et puis des feuillets pour m'aider, là, vous savez, les feuillets de la bonne semence ou du trésor quotidien. Et il m'a dit, mais petit à petit, j'ai commencé à changer sans m'en rendre compte. C'est les gens qui sont autour de moi qui m'ont dit, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et lui, il ne savait pas quoi expliquer, si ce n'est qu'il a compris que c'est simplement parce qu'il commençait à lire la Bible plus que d'habitude. Il y a un changement qui se passe. Est-ce que ce n'est pas simple ? Juste lire la Bible. Mais est-ce que nous croyons que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante pour sonder notre cœur et nous amener à une transformation que les efforts humains ne pourront jamais amener? Même le plus grand de tous les efforts ne donneront pas les mêmes résultats que cette parole. Alors laissons la lumière du Seigneur nous éclairer. Quel est le deuxième événement qui a marqué le ministère du Seigneur, ou c'est qu'il y a eu de la lumière qui a brillé de manière particulière? Est-ce que vous vous en rappelez? On va le lire toujours dans Matthieu. Est-ce que quelqu'un a une idée? La transfiguration, c'est ça. Matthieu chapitre 17, verset 1er. On va lire les deux premiers versets. Ce moment particulier où Jésus a manifesté sa gloire, la gloire de Jésus, lui qui était un être humain, qui avait tout le côté humain dans sa personne, à ce moment-là, il a révélé la gloire de Dieu dans sa personne de manière physique. Et il a fait à ses disciples les plus proches, il aurait pu le faire à tous, mais il a choisi les trois qui avaient le plus soif, parce que notre soif détermine la révélation de Dieu dans notre cœur. Notre soif détermine aussi la lumière qui va briller dans notre vie. Matthieu 17, verset 1er, il est dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Amen. À ce moment-là, Jésus, qui était parfaitement homme et qui était aussi parfaitement Dieu, a choisi de manifester à ses disciples sa divinité. Il a choisi de leur montrer qu'il était le Tout-Puissant. Il était celui qui pouvait tout dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Toutes les fois où les disciples ont traversé des moments compliqués dans leur vie et qu'ils commençaient à se souvenir de ce moment-là, ils ont dit « Oui, mais Jésus est le Tout-Puissant et on peut lui faire confiance. » Qu'est-ce que Dieu a dit aux disciples? On va pas lire la suite. Mais peut-être pour ceux qui l'ont sous les yeux, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu a dit aux disciples juste après? Quand ils l'ont vu dans toute sa splendeur, ils ont vu leur Seigneur Jésus, le visage qui brille comme le soleil, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas laisser les yeux fixés sur lui parce que tellement ça brillait. Qu'est-ce que a dit Dieu à ce moment-là? Voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que la lumière du Seigneur qui était là, qui brillait, c'était la lumière de la faveur de Dieu. Est-ce que vous voulez que la faveur de Dieu brille dans votre vie à vous? Est-ce que c'est possible aujourd'hui que la lumière de la faveur de Dieu brille sur nous? Oui. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est parce qu'on va prier de la bonne manière? Est-ce que c'est parce qu'on va prêcher avec beaucoup d'art? Est-ce que c'est ça qui fait que on va avoir la faveur de Dieu sur notre vie? Qu'est-ce qui fait? Simplement que déjà on a fait la paix avec Dieu. Qu'on a laissé la lumière du Seigneur, l'étoile du matin se lever dans notre cœur. Qu'on a accepté de passer par cette vie nouvelle, avec tout ce que ça représente de repentance et de conversion. Et parce qu'on laisse ces choses se faire en nous, eh bien, la faveur de Dieu se manifeste. Jésus, il était celui qui faisait la joie de son Père parce qu'il était parfait dans son obéissance. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire aussi, écoutez-le. Mais quand on laisse le Seigneur Jésus venir en nous, quand on laisse la lumière de la faveur de Dieu briller en nous, alors on a la possibilité de faire ce que Dieu nous demande de faire. Sinon, je le répète, c'est lutte, c'est combat, et c'est désespoir, et c'est lassitude. Mais si la lumière du Seigneur est en nous, alors cette faveur de Dieu est là. Et il n'y a pas de plus grande joie sur cette terre aujourd'hui que de vivre la faveur de Dieu. Vous le croyez ça? La joie qui demeure, la joie, cette question qui était posée au début, qui nous fera voir le bonheur? Mais si tu as la faveur de Dieu dans ta vie, tu vas voir quel bonheur immense il va être au fond de toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés, mais malgré tout cela, malgré les circonstances difficiles, tu auras la joie de Dieu, la joie du ciel qui se répercutera jusque dans ton cœur. Même s'il y a des relations compliquées avec ton conjoint, même s'il y a des relations compliquées avec ta famille, même s'il y a des relations compliquées au travail, peu importe la difficulté. Il y a une joie qui demeure, une joie qui est éternelle. Et ça fait écho au message du Seigneur qui disait « Heureux, heureux, heureux » quand on laisse la lumière du Seigneur briller en nous. Vous avez vu, ce matin, je vous parle de la lumière qui a brillé sur le Seigneur. Mais plus on étudie ça, plus on va se rendre compte que le Seigneur va nous transformer et nous faire de nous la lumière du monde. Des fois, on essaye, nous, de voir, mais Seigneur, comment est-ce que je peux devenir la lumière du monde? Regarde au Seigneur. Laisse-toi éclairer par sa présence. Prends du temps dans sa parole. Prends du temps dans la prière avec lui. Et tu vas voir que les changements vont se faire tout seuls. Le problème aujourd'hui, c'est celui qui est souligné par Jacques. Il était déjà présent à l'époque, ce problème. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou alors parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs. Mais si on demande de la bonne manière, on va recevoir. Celui qui demande dans la volonté du Seigneur, le Seigneur a dit qu'il allait recevoir. Celui qui demande les choses en son nom, en obéissant à son autorité. Laissons la lumière du Tout-Puissant éclairer notre vie. Qui c'est qui est apparu sur la montagne de la Transfiguration? Qui c'est qui est apparu à côté de Jésus, d'un côté et de l'autre? Vous vous souvenez? Moïse, oui, et Élie. Moïse et Élie. Moïse, il symbolise celui qui a porté la loi, il symbolise la sagesse, il symbolise aussi la justice de Dieu, il symbolise la sainteté de Dieu. La loi, c'est tout ça en même temps. Sagesse, justice, sainteté. Et c'est important qu'on puisse grandir dans ces choses, c'est important qu'on réalise que celui qui veut nous donner la capacité d'obéir, c'est le Seigneur. Il a dit dans Ézéchiel 36, « Je leur donnerai un cœur nouveau. » Il est dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques. » Qui c'est qui va faire le travail? L'Éternel. Au travers du cœur nouveau, au travers de son action dans notre vie, c'est lui qui nous aide à obéir. Si on essaye d'obéir avec notre capacité humaine, ça va marcher pendant un temps, peut-être un jour, peut-être une semaine, peut-être un mois, mais à un moment donné, on va s'arrêter. Mais si c'est le Seigneur qui nous donne son esprit pour obéir, alors là, ça va durer, et alors là, on va faire des progrès, et alors là, on va vivre cette réalité que nous devenons la lumière du monde qui est radie autour de nous. Et puis, mais Élie, il représente la puissance, il représente les signes et les prodiges. Vous voulez vivre les signes et les prodiges? Aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est que pour une époque lointaine? Est-ce que c'est pour aujourd'hui, les miracles, les signes et prodiges? Est-ce que c'est pour aujourd'hui que le Seigneur est capable de guérir? Est-ce que c'est pour aujourd'hui que le Seigneur est capable de justement guérir une personne qui est dans la dépression ou une personne qui est blessée physiquement? Est-ce que c'est pour aujourd'hui ou est-ce que ce sont juste des histoires que l'on raconte et que l'on voudrait s'efforcer de croire mais que l'on ne connaît pas? Moi, j'ai vécu, quand j'étais enfant, j'ai vu la main de Dieu se poser de manière puissante. Je l'ai vu en France. Il y avait vraiment une action de Dieu particulière qui se passait. Une personne est rentrée dans la salle et une personne qui avait des béquilles, qui était là, qui boitait. Et puis elle est venue à la prière et elle a commencé à sentir quelque chose qui se passait dans son corps. Et j'ai vu, je me souviens, j'étais un tout petit enfant, ça m'a marqué. J'ai vu cette personne qui commençait à courir tout autour de la salle, qui avait jeté les béquilles on ne sait pas où. Ah là, quel désordre! L'église était en désordre, quelqu'un qui commençait à courir comme ça. Mais moi, je voudrais que l'église soit en désordre comme ça tous les dimanches, hein, ça me dérange pas. Si c'est pour signaler une guérison, comment ça s'est passé dans les actes au chapitre 3, quand le boiteux, justement, il a été guéri. Il est marché, sauté, il louait Dieu dans le temple. Oh là, il est en train de mettre la pagaille. Non, il est en train de manifester sa joie. Parce qu'il avait vécu un miracle dans sa vie. Parce qu'il avait eu la foi dans la puissance de Dieu qui a amené la guérison. Et Dieu veut faire ces choses encore aujourd'hui. Et c'est tellement bien de pouvoir parler aux personnes qui sont autour de nous des choses que Dieu fait de manière générale. Et c'est tellement mieux quand on dit ce que Dieu a fait pour nous. Quand on dit qu'on a été guéri. Quand on dit qu'on a été délivré du tabac. Quand on a été délivré de l'alcool. Qu'on a été délivré de telle ou telle chose qui est là dans notre vie, qui nous pèse. Imaginez que vous voulez rendre témoignage à quelqu'un, justement, à votre voisin. Vous voulez le convaincre de se donner au Seigneur. Et puis, vous allez le voir et vous lui dites, voilà, quelqu'un m'a raconté qu'il a lu dans une revue missionnaire l'histoire d'un homme d'un pays lointain qui a entendu parler d'une dame âgée dont la cousine de sa belle-mère a été guérie. C'est merveilleux, Dieu guérit aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il va vous dire, le monsieur, là? Il va vous dire, c'est bien, mais tu es sûr de ce que tu racontes, là? Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires qu'on ne sait pas si c'est la vérité finalement, on n'a aucun moyen de vérifier. Maintenant, si vous dites à la personne, j'étais malade, on a prié pour moi, le Seigneur m'a guéri. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire le gars en face? On est la preuve vivante, on n'a même pas besoin de dire grand-chose finalement. Et Dieu veut que nous soyons la lumière de cette manière, en laissant la puissance de Dieu se manifester dans notre vie, c'est-à-dire en réclamant s'il y a une maladie, « Seigneur, j'ai besoin de ta guérison ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les docteurs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir avec sagesse et bon sens, mais aussi, il ne faut pas oublier que le Seigneur est celui qui est capable de guérir. Et tout en faisant les démarches de santé qui sont correctes, on a le devoir aussi de faire dans notre cœur cette prière, « Seigneur, que ta lumière brille dans ma vie. Seigneur, je veux goûter à ta puissance. Je veux goûter aux signes, aux prodiges et aux miracles. Les miracles accompagneront certaines personnes », nous dit la parole. De qui s'agit-il ? C'est pas les chouchous ? Moi, j'ai marqué les chouchous. Les miracles accompagneront ceux qui sont les chouchous du Seigneur. Ceux qui sont riches, alors, peut-être. Ceux qui sont très religieux. C'est ça ? C'est ceux qui croient. Qui peut croire ? Ben, tout le monde. Qui peut mettre sa foi ? Tous ceux qui choisissent d'entendre la parole et de dire « Mais c'est vrai, c'est pas, le pasteur ne raconte pas des choses qu'il a envie de raconter. Il fait que répéter ce que dit la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » C'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été écrit il y a 2000 ans en arrière, inspiré par le Saint-Esprit, et ça nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui, et c'est encore valable aujourd'hui parce que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce matin, déjà dans votre cœur, si vous êtes malade, vous pouvez commencer à faire cette prière, tout en continuant d'écouter. Mais Seigneur, j'ai besoin, moi, d'expérimenter que ta lumière, la lumière de ta puissance brille dans ma vie ce matin, afin que je goûte à cette guérison, si c'est physique, si c'est intérieur, peu importe, si c'est relationnel. Le Seigneur, il est capable de tout. Seigneur, je veux te faire confiance. Jésus est celui qui veut briller avec cette lumière du Tout-Puissant. Et je voudrais voir aussi cette pensée. Dans Luc au chapitre 22, verset 56, un feu qui a brûlé, un peu particulier celui-là, vers la fin du ministère de Jésus, juste avant qu'il arrive à la croix, il y a une lumière qui a brillé. Luc 22, verset 56, on peut lire même au verset 55. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. Amen ». Et vous savez la suite, ce qui a été fait à 3 reprises en tout, il a renié le Seigneur. Lui qui avait fait de belles promesses, « Seigneur, j'irai jusqu'à la mort, s'il fallait même mourir, je ne te renierai pas. » Et puis pourtant, le Seigneur savait ce qui allait se passer. Le Seigneur a dit, quand tu vas entendre le coq, ce ne sera pas bon pour toi, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Que tes belles paroles, elles sont jolies, mais elles ne reflètent pas ta capacité. Pierre a cru pendant un instant qu'il allait pouvoir faire les choses par lui-même. Il a cru qu'il avait assez appris du Seigneur pour pouvoir résister. Et il a oublié qu'il avait besoin de cette relation. Et quand il était dans le jardin de Gethsémané, au lieu de prier, à cause de la tristesse, il s'est laissé gagner par la tristesse. Et il avait le droit, parce que c'était triste ce qui allait se passer. Mais il a laissé la tristesse prendre le dessus, il a empêché de prier, il a empêché d'être éclairé par la présence de Dieu, et il a amené à renier son Seigneur. Et si on arrêtait l'histoire de Pierre là, combien ça serait triste, vous êtes d'accord ? Un homme qui a dit de belles paroles devant Dieu, qui a confessé, ça nous rappelle toutes ces personnes qui confessent le nom du Seigneur le jour de leur baptême. Seigneur, je te suivrai tous les jours de ma vie. Je veux t'obéir à tout ce que tu vas me demander. Et puis quand l'épreuve, la tribulation vient, on se retrouve un peu tremblant. Et on se retrouve à trop compter sur nous et à chuter. Pierre a oublié les avertissements du Seigneur. Et le résultat, c'est qu'il s'est planté. Et ça nous arrive de faire la sourde oreille à ce que Dieu nous dit, de ne pas entendre les appels du Seigneur, de ne pas nous rappeler de ses paroles, et de faire des erreurs, de faire des mauvais choix. Mais qu'est-ce qu'a fait Pierre à ce moment-là, quand il s'est trompé, quand il s'est totalement vautré ? Vous savez ce qu'il a fait ? Il a simplement levé les yeux, et il a croisé le regard du Seigneur. Finalement, celui qui a initié le mouvement, c'est Jésus qui a choisi de le regarder à ce moment-là. Et ce regard, ça a été comme un flash, comme une lumière de vérité qui a brillé dans le cœur de Pierre en lui disant « Tu vois, tu as dit quelques paroles par rapport à qui tu étais, combien tu avais de la force, combien tu pouvais te discipliner, mais regarde où tu en es aujourd'hui. Mais en même temps, c'était une lumière d'amour. Repens-toi et tu recevras le pardon. Et Pierre, vous savez que Jésus ne s'est pas arrêté avec lui à ce moment-là. Mais quelque temps après, c'est Jésus lui-même qui a allumé un brasier. Le mot, c'est le même. Il a allumé un feu, c'était pas au milieu de la cour, c'était au bord d'un lac. Et c'est à cet endroit où, à trois reprises, il lui a demandé « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il a voulu sonder le cœur de Pierre pour savoir s'il y avait toujours de l'amour. Et l'amour de Pierre a continué malgré ses échecs, malgré ses difficultés, malgré la réalité qu'il était faible. Son amour était toujours là. Oh, il aurait voulu qu'il soit tellement mieux. Mais il était là, il avait gardé cet amour. Et il avait fait surtout la paix avec son Seigneur. Vous savez, quand on a besoin de laisser la vérité du Seigneur nous éclairer, même si cela, ça nous remet en question sur notre petitesse. Des fois, on a une haute valeur à nos yeux, on pense qu'on est fort, et la vérité du Seigneur nous montre qu'on est tout petit. La vérité du Seigneur, la parole de Dieu, montre qu'on est tellement faible face à tout ce qui se passe. Mais le Seigneur, il ne veut pas s'arrêter là. La lumière de la vérité, elle est toujours suivie de la lumière de pardon et de cet éclairage que le Seigneur veut se servir de nous. Parce qu'à ce moment-là où Pierre a été éclairé par le Seigneur, la deuxième fois, vous savez ce qui s'est passé? Il lui a dit, il lui a donné, confié cette mission, paix mes brebis. Paix mes brebis, ça veut dire occupe-toi de l'église qui va venir. Et c'est ce que Pierre, il a fait. Lui qui aurait pu se dire, j'ai renié le Seigneur, celui qui reniera le Seigneur devant les hommes, Dieu le reniera. J'ai fait ça, je mérite le jugement. Et Jésus lui dit, moi je veux me servir de toi, parce que tu as réglé les choses. Est-ce que c'est pas ça que Dieu veut faire dans nos vies? La lumière de vérité est toujours suivie de la lumière de la grâce et du service. Si on reste au moment où on s'est trompé, alors on est les plus malheureux de tous les hommes. Pierre a pleuré amèrement, mais il a choisi d'écouter un peu plus le Seigneur et de voir les projets qu'il avait pour lui. Vous savez que Dieu a des projets pour vous? Vous savez que le Seigneur, il a de grands projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, que le Seigneur, il a des projets pour nous. Mais des fois, avant de pouvoir nous révéler les grands projets qu'il a pour nous, on a besoin de passer par ce chemin d'humiliation, ce chemin de brisement, et ce chemin où on est éprouvé, parce que alors ça nous solidifie. Alors, quand on se repent devant Dieu, alors quand on laisse le Saint-Esprit nous convaincre de péché, de justice et de jugement, on se relève plus fort, on se relève propre à toute bonne œuvre, on se relève prêt à être utilisé comme des instruments de bénédiction.